Voilà donc la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Dans l'Église d'Occident, on met beaucoup l'accent sur l'adoration des mages. Épiphanie, cela signifie manifestation. Dans l'adoration des mages, nous voyons le Seigneur Jésus qui se manifeste aux nations païennes représentées par les mages. Les mages nous ressemblent, car pour la grande majorité d'entre nous, nous sommes issus des nations païennes et non du peuple d'Israël. Nous pouvons donc nous demander qui sont-ils ces mages? Ils sont des hommes de science, passionnés par leur savoir, qui laissent leur science les guider vers Jésus. Ils sont des étrangers, ne faisant pas partie du peuple d'Israël dont Jésus est issu, mais qui se laissent toucher par lui qui naît comme un étranger. Ils sont des hommes de bonne volonté, qui par-delà leurs différences de religion, se laissent toucher par la paix apportée par l'enfant Jésus. Voilà donc des mages venus d'Orient, à la vue d'une étoile, qu'ils ont reconnue comme étant celle du roi des Juifs qui venait de naître. Ces mages étaient donc des passionnés des astres dans le ciel. Nous pouvons dire qu'ils étaient des hommes de science, passionnés par la science des astres. Leur passion devait être grande pour qu'ils entreprennent un long voyage à la vue d'un astre. Même s'ils étaient des astrologues plutôt que des astronomes, leur science s'est révélée exacte, car l'étoile les a finalement conduits auprès du roi des Juifs qui venait de naître. On a souvent opposé Dieu et la science. Or, science est un des noms de Dieu. La science est un des dons de l'Esprit-Saint. Il ne saurait y avoir opposition entre science de la nature et science sacrée. Si Dieu est le Créateur du ciel et de la terre, nous intéresser au ciel ou à la terre nous conduit tôt ou tard à nous intéresser à Dieu qui en est l'auteur. Au moment de la nativité, de la naissance du Fils de Dieu sur la terre, le ciel et la terre chantent pour leur Créateur qui se fait homme. Les anges dans le ciel éveillent les bergers et l'étoile met en route les mages. Que nous sachions dans les connaissances humaines que nous scrutons, que nous étudions, qui font notre passion, reconnaître les traces du divin. Cela demande de notre part de l'humilité, comme cela a demandé de l'humilité aux mages. De l'humilité pour ne pas nous approprier nos connaissances, nos sciences, mais pour laisser leur auteur transparaître et convertir nos cœurs. Le grand savant Albert Einstein parlait souvent de Dieu à l'origine des lois de l'univers qu'il découvrait. Si les mages étaient des hommes de science qui ont su scruter Dieu dans leurs connaissances, ils se sont aussi laissés déplacer vers un pays qui leur était étranger. Ils venaient d'Orient, sans doute de la Babylonie, l'actuel Irak. C'était en Babylonie que les Juifs avaient été en exil au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ils sont venus en Judée, le pays de ceux et celles qui avaient été en exil chez eux. Ils sont venus en étranger pour aller adorer le roi des Juifs, le roi d'un peuple qui leur était étranger et qui, plus est dans l'histoire, avait été leur ennemi. La science ne connaît pas de frontières et la recherche de Dieu encore moins. Mais ce qui est surprenant, c'est que ni le roi Hérode qui régnait à Jérusalem, voisine de Bethléem, ni les grands prêtres et les scribes, eux qui scrutaient pourtant les Écritures saintes, ne se sont laissés déplacer par la naissance de Jésus à Bethléem. Nous savons même que le roi Hérode en a voulu à la vie de l'enfant Jésus. C'est souvent les étrangers qui se laissent déplacer par Dieu plus que les gens qui sont sur place. Jésus dira que nul n'est prophète en sa patrie. Ou alors, si des gens sur place s'ouvrent à Dieu, c'est qu'ils vivent comme une situation d'étranger. Ainsi, les bergers à Bethléem sont venus à la crèche, eux qui étaient des marginaux dans leur peuple. Si donc nous sommes étrangers là où nous vivons, cela peut être une bénédiction, car Dieu a quelque chose à nous donner tout particulièrement. Ou bien si nous sommes marginalisés dans notre milieu, à cause de notre foi par exemple, cela peut être une bénédiction, car la crèche est pour nous. C'est que Dieu à Bethléem est né comme un étranger dans une étable, et il attire ainsi les étrangers. Si donc les mages étaient des hommes de science, des étrangers, ils étaient aussi des hommes de bonne volonté. Les anges à Bethléem chantaient gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Lorsqu'en 1963, le pape Saint Jean XXIII a écrit son encyclique Pacem in Terris, il l'a adressée aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Le message de Noël, la bonne nouvelle de l'Évangile, est pour tous les humains, par-delà leur religion ou leur philosophie. Déjà le prophète Isaïe disait, nous l'avons entendu tout à l'heure, « Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. » Et saint Paul écrivait, « Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. » Marie et Joseph ont accueilli les mages venus se prosterner devant leur enfant, eux qui venaient pourtant de la Babylone naguère dévastatrice, eux qui étaient pourtant d'une autre religion. Ils les ont accueillis malgré leurs signes religieux différents. Marie et Joseph ont vu dans les mages leur bonne volonté. Ils ont accueilli leur quête de vérité, de lumière et de paix. Nos sociétés multireligieuses peuvent être une chance pour que se révèle la bonne volonté des personnes. Elles peuvent être une chance pour l'Évangile qui n'est pas endoctrinement, mais qui est lumière et paix à partager. Que soit béni pour l'adoration des mages, pour ces hommes de science qui se sont mis en route en raison de leur quête et qui ont trouvé l'enfant Jésus à Bethléem, pour ces étrangers qui se sont laissés déplacer dans un pays qui n'était pas le leur pour trouver Dieu comme un étranger, pour ces hommes de bonne volonté qui se sont laissés enseigner par la vérité, la lumière et la paix.